introduire la prédication, Ésaïe 52, du verset 13 au verset 15. Mais c'est pas le message, hein.
C'est pas encore le message. J'arrêterai.
Voici, ainsi parle l'Éternel, voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'il ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu, et avant d'écouter la parole, nous allons prier en chantant ce chant, le numéro 20, dans vos carnets noirs. Au Saint-Esprit, descend.
Oui, je peux pas mettre la pause.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles, à Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 14, et à partir du verset 27. Marc 14, verset 27. Jésus leur dit, et leur donc c'est aux disciples, les onze, parce que Judas est déjà parti. Jésus leur dit, « Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi, pas. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient de même. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané,
Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. C'est-à-dire qu'ils avaient très sommeil. Ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. » Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. Donc Judas, hein. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sous bonne garde. Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi » et il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Jésus vient de passer beaucoup de temps avec ses amis avant ce passage, hein. Avec ses disciples, il a pris son dernier repas avec eux, la scène, il a instauré la scène aussi, pendant ce repas. Il a prié pour ses disciples, c'est ce qu'on lit dans Jean chapitre 17. Et donc là, l'heure est arrivée d'aller se coucher, il est tard déjà, mais Jésus ne va pas se coucher. Il ne va pas dormir, il a quelque chose de plus urgent à faire. Et nous lisons donc, nous avons vu dans ce passage qu'il va à Gethsémané, dans ce jardin. Alors nous allons voir trois choses ce matin, dans ce texte. Tout d'abord, Jésus annonce. Après, deuxièmement, Jésus prie. Et enfin, troisièmement, Jésus est arrêté. Et dans ce passage, nous voyons vraiment des choses merveilleuses concernant Jésus-Christ. Des choses qui nous montrent qui il est. Lui qui est si différent de nous tous. Et nous y voyons aussi des choses très très importantes par rapport aux disciples. Et concernant donc aussi en même temps notre marche en tant que chrétien sur cette terre. Et nous trouvons des réponses en fait aux questions suivantes. Comment vivre avec nos faiblesses en tant que chrétien? Comment réussir à les surmonter, ces faiblesses? Et donc comment réussir à vivre pour la gloire de Dieu. Donc tout d'abord, je vous invite, on va se pencher sur Jésus annonce. Alors Jésus annonce deux choses. Tout d'abord, il annonce une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Et il dit donc que les disciples vont tous trébucher. Ils vont tous le renier. Ils vont vivre un choc lorsque Jésus sera arrêté. Ils vont vivre un choc lorsqu'ils le verront sur cette croix. C'est ce que nous lisons au verset 27. Vous trouverez tous une occasion de chute, hein, c'est ce qu'il leur dit. Et donc, ils vont tous douter sur le fait, est-ce que vraiment, finalement, est-ce qu'il est ce Messie, ce roi des rois annoncé depuis la nuit des temps? Et lorsqu'ils le verront donc encerclé par ses ennemis, ils se diront, non, en fait, celui-là n'est pas le Messie, finalement. Et donc, ils seront dispersés loin de Jésus. Et après, dans ce texte, dans ce passage, nous avons comme un zoom sur un des disciples, et c'est sur l'apôtre Pierre. C'est l'homme d'action, hein, on le connaît, un homme, un vrai. Il parle très rapidement, il a une grande confiance en lui-même. Et on va voir ce qu'il dit donc face à cette annonce de Jésus, quelle est sa réponse. Verset 29. Pierre lui dit, quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. Ce péché-là, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. D'autres, oui, bien sûr, d'accord, bien sûr, mais moi, jamais. Personnellement, les gyrophares se mettent en marche chez moi lorsque j'entends des personnes qui me montrent par leur comportement ou qui disent dans leurs paroles, ce péché-là, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Nous lisons aussi un autre passage dans le Nouveau Testament qui nous enseigne quelque chose de similaire. Hein. Il faut faire attention de ne pas chuter. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Moi, jamais. Quel danger, hein, de faire confiance en ses propres capacités, en ses propres forces qu'on croit avoir, ses propres dons qu'on croit posséder, ses propres capacités. Et lorsqu'on dit ou lorsqu'on pense cette phrase, moi pas, moi jamais, ça montre en fait quelque chose de plus profond. Ça montre que nous n'avons pas compris ce que la Bible dit sur nous-mêmes. En d'autres mots, l'anthropologie biblique. C'est ne pas avoir compris notre faiblesse, notre nature pécheresse, qui est tellement profonde et ancrée en nous. Très bientôt, nous lisons dans les passages, dans les versets qui suivent en fait, très bientôt Pierre va être intimidé, non pas devant une armée, lui qui pense être si fort, il va être intimidé devant une servante. Et devant elle, il va même renier connaître Jésus, et il va même aller aussi loin que de se maudire soi-même. Donc on voit en fait Pierre dans ce péché de reniement, n'est-ce pas ? C'est pas juste, il va pas juste, il entre pas juste entre guillemets avec un pied, mais avec tout son être, avec tout ce qu'il est, il commet ce péché. Et même il se maudit lui-même en disant non, je connais pas Christ, que je sois maudit si je mens. Et donc nous avons au verset 30 cette annonce de Jésus envers Pierre avant que le coq ne chante deux fois. Il aura donc renié Jésus trois fois. Et après, nous lisons verset 31. Face à ça, face à cette annonce de Jésus, Pierre affirmait plus fort. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Donc il dit ici, je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à être un martyr, à donner tout ce que j'ai de plus précieux, ce que Dieu m'a donné dans ce monde. Je suis même prêt à donner ça, mais je te renierai jamais. Alors beaucoup de personnes disent par rapport à Pierre, mais quel hypocrite. Il dit une chose, il fait son contraire. Mais c'est s'avancer trop rapidement, c'est ne pas voir exactement qui est Pierre. Parce qu'il n'y a aucun doute, Pierre pensait réellement ce qu'il disait ici. Il aimait profondément Jésus-Christ. Et on lit juste au chapitre 8, verset 29, quelques chapitres avant, Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre s'avance en premier et il dit « Tu es le Christ. » Et il le dit avec tout ce qu'il est, avec tout son cœur. Il aimait profondément son Seigneur. Et donc il y a quelque chose de très beau ici à relever chez Pierre. Il ne faut pas qu'on passe par-dessus. Oui, bien sûr, il se sent trop courageux, il est fier, il a de l'orgueil en lui, c'est sûr. Mais en même temps, il y a quelque chose de très beau, quelque chose que nous sommes aussi encouragés, que Dieu nous encourage ici à copier, à prendre un exemple sur Pierre. C'est d'avoir en nous ce désir profond de voir Christ exalté, de voir son œuvre connue parmi les hommes, de voir son nom élevé, exalté, de l'aimer profondément. Donc il y a quelque chose de très beau ici, que nous sommes encouragés à vivre aussi et à suivre. Mais bien sûr, il y a ce péché qui s'approche, et donc Christ explique à Pierre qu'il va donc faire pire même que tous les autres. Il ne va pas juste le renier une fois et dans 30 ans, mais il va le renier trois fois et le jour même, le jour même. Et donc, en résumé, Jésus annonce ici une mauvaise nouvelle, mais nous voyons aussi, il y a comme une bougie qui est allumée dans ces ténèbres profondes et que Jésus allume. Et c'est le verset 28, où donc il est dit « Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » En d'autres mots, on va se revoir. Vous allez me renier, vous allez dire que vous n'êtes pas mes amis, mais moi, pour moi, vous restez mes amis. Et il y a cette annonce hein, si belle de la résurrection, donc il y a bien sûr la mort aussi qui est annoncée, mais il y a l'annonce de la vie. Christ va vaincre la mort, Christ va vaincre le péché, il va vaincre leur péché d'avoir renié leur sauveur. Et donc on a cette grâce qui resplendit ici, la grâce de notre sauveur, Jésus-Christ. Donc Jésus annonce, puis Jésus prie. Nous en arrivons donc au deuxième point, Jésus prie. Jésus va dans ce jardin de Gethsémané, un jardin qui est très proche de Jérusalem, où il y avait donc beaucoup d'oliviers, c'est ce que nous lisons au verset 26, c'est le mont des oliviers, un endroit connu. Jésus était venu ici dans le passé, il avait prié ici, c'était un endroit ses disciples connaissaient, Judas connaissait cet endroit, il savait que Jésus allait être là. Et donc Jésus ici se retire, comme dans le passé, pour prier, pour venir devant son Père. Il se retire pour être seul, et donc il y a en fait deux phases. Tout d'abord, il laisse 8 disciples derrière lui, et il y a 3 disciples qui l'accompagnent, hein. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Et après, même ces 3 disciples, Jésus les laisse derrière lui et il s'avance seul dans ce jardin. Et là, au verset 33, le texte nous dit « Il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. » D'effroi et d'angoisse. C'est des mots très 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 forts en grec. C'est une peur profonde, un bouleversement profond que Jésus connaît à ce moment-là. Et ici, nous voyons celui qui n'avait pas craint les foules. Les foules qui sont si changeantes. Hein. Un jour, elle crie « Hosanna, Hosanna !» Et le jour d'après, elle crie « Crucifie-le !» Il ne les avait pas craint, ces foules. Il n'avait pas craint les pharisiens, les scribes, les anciens, les sadducéens, leurs menaces, leurs pièges. Il avait toujours tenu bon. Il n'avait pas craint Satan non plus, tout au début de son ministère, lorsqu'il avait été tenté dans le désert pendant 40 jours. Mais ici, nous voyons Christ saisi donc d'effroi et d'angoisse. Alors, ce n'est pas le fait d'être laissé seul qu'il craint, seul par ses amis. Ce reniement, ce n'est pas ça qu'il craint. Ce n'est pas non plus la mort qu'il craint. De fait, si vous regardez dans les livres d'histoire de l'Église, hein, quand on regarde par exemple l'histoire de l'Église en France dans les années 1600-1700, il y a tellement d'histoires que nous pouvons lire, de faits réels qui se sont accomplis, de chrétiens qui ont vécu des morts terribles en tant que martyrs. Mais qu'est-ce que nous lisons? Nous voyons qu'ils sont allés vers les bûchers, joyeux, en chantant des psaumes, en témoignant jusqu'à la fin par cette joie. Donc ce n'est pas la mort que Jésus craint. Mais ici, il voit que c'est le Père, Dieu le Père, qui le mène à la croix. Et c'est pour ça qu'il est saisi d'effroi et d'angoisse. Et donc, nous avons son âme ici, l'âme de Christ qui est tourmentée, c'est ce que nous lisons au verset 34. Mon âme est triste à en mourir. Donc il souffre au plus profond de lui-même. Et c'est une souffrance que nous ne pouvons pas mettre dans des mots, tellement c'est profond, tellement c'est douloureux ce qu'il vit ici. Alors de quoi a-t-il peur? Il a peur de ce qu'il attend. Et qu'est-ce qu'il attend? Oui, la croix. Une mort, une agonie terrible, une mort terrible. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement le clou qui a transpercé ses mains, ses pieds. Ce n'est pas non plus, pas seulement l'épine de couronne, la lance qui le transperce. C'est bien sûr déjà horrible et c'est la pire des morts, nous le savons, qu'un être humain puisse connaître. Mais sa frayeur est encore beaucoup plus due à autre chose. Et je vous invite à regarder en Jérémie, chapitre 25. Excusez-moi. On va d'abord voir dans notre texte et après on va passer à Jérémie 25. D'abord, notre texte l'enseigne déjà, verset 27. Car il est écrit, je frapperai le berger. C'est une citation ici de Zacharie, chapitre 13, verset 7. Et qui est je? C'est Dieu le Père qui parle. Je frapperai le berger. Et au verset 36, nous lisons « Éloigne de moi cette coupe. » Qu'est-ce que c'est cette coupe? Et maintenant, je vous invite à aller dans Jérémie 25, verset 15. Cette coupe. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe, ma main, la main de Dieu le Père, prends de ma main cette coupe remplie du vin de la fureur et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'envoie. » Donc dans l'histoire d'Israël, Dieu a déversé cette coupe parfois sur des nations, mais ici, et c'est la première fois et la seule fois dans l'histoire, cette coupe elle est remplie à ras-bord. Et Dieu ne va pas juste la verser sur Christ, il va la verser jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte. Christ va devoir boire cette coupe amère. Et encore, pour vraiment montrer que c'est bien dans l'Écriture que nous trouvons cet enseignement, en Ésaïe 51, 53, au verset 4, comme frappé par Dieu et humilié. C'est Dieu lui-même qui frappe son Fils sur la croix. Et donc lui qui n'a jamais connu le mal, qui n'a jamais commis de péché, lui l'être le seul homme pur, parfait, il va être traité comme s'il est le malfaiteur. Il va être abandonné du Père. Et donc nous lisons, je vous invite à retourner à Marc. On va retourner à notre passage. Et donc Jésus prie. Et donc au verset 35, s'il était possible, il pria, s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Et après il dit, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Et donc Jésus prie ici que si c'est possible, que cette heure s'éloigne de moi. Et il reconnaît tout est possible à toi, éloigne de moi cette coupe. Il reconnaît ici la toute-puissance de Dieu le Père. Et donc il sait que ce qu'il attend est tellement horrible, qu'il demande à Dieu de changer son plan, si c'est possible. Mais quel plan ? Il faut qu'on se pose cette question. Quel plan, finalement ? Jésus ne demande pas que cette action de sauvetage de son peuple s'arrête. Il ne demande pas ça. Ici, ce qu'il a demandé au Père, c'est s'il y a une autre possibilité pour sauver ce peuple. Autre que l'agonie qui m'attend, autre que cette souffrance horrible, eh bien que cela se fasse. Mais nous savons, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc Jésus ira jusqu'à la croix. Et on voit en même temps que cette prière de Jésus, en fait, élimine tout autre chemin du salut. S'il y avait un chemin autre que la mort de Christ, ben sa mort n'aurait pas été nécessaire. Et donc, nous voyons ici en même temps que Jésus, on voit l'amour encore une fois, Jésus aime les siens et il veut le bien de ses enfants, il veut agir, il veut sauver. Ici donc, Jésus aimerait reculer, il aimerait ne pas marcher sur ce sentier si sombre, si difficile qui s'ouvre devant lui. C'est comme un peu comme un nuage noir, un nuage de tempête terrible qu'il voit s'approcher sur lui. Venir vers lui. Et ici, on n'a vraiment pas... Moi, je n'ai pas peur d'exagérer par rapport à cette souffrance de Christ, parce qu'on ne peut pas exagérer cette souffrance qu'il a connue. L'enfer entier était distillé dans cette coupe qu'il a bue. Et les horreurs d'une éternité en enfer étaient distillées dans ces 3 heures pendant lesquelles il était sur cette croix, en train d'agoniser. Et donc cette punition divine condensée, on ne peut pas s'imaginer à quel point il a souffert. Mais il a souffert pour que la justice soit faite, pour que le plan de Dieu soit accompli. Et après, au verset 36, nous avons cette phrase que Jésus dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On voit ici la parfaite soumission de Dieu le Fils à Dieu le Père. Il y a une chose ici qui peut nous paraître assez étonnante, c'est que la volonté de Jésus-Christ, la volonté de Dieu le Fils, est différente de la volonté de Dieu le Père. Hein. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a une différence. Alors, c'est une difficulté. Comment expliquer ces deux volontés contraires au sein de la Trinité à ce moment-là ? En fait, ça a à voir avec la complexité de la nature de Jésus-Christ. Il était, et il est, 100% homme, 100% Dieu, totalement homme, totalement Dieu. Et du côté de l'homme, donc il a été tenté en tout point comme nous. Donc là, on a la nature humaine. Mais il est resté sans péché. Là, on a la nature divine. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer cette difficulté. Et nous voyons cette prière, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelle prière puissante, quelle prière belle. Alors que ça va tout me coûter, c'est ce que Jésus était en train de dire, alors que ça va tout me coûter, je veux faire ce que tu veux. Jésus devait donc être le sacrifice pour les péchés. Il n'est pas comme les animaux de l'Ancienne Alliance. Et c'est là, en fait, qu'on voit la supériorité, la perfection de son sacrifice. C'est que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des animaux qui sont amenés, ils ne sont pas volontaires. Ils sont amenés pour être sacrifiés pour le péché. Et ils sont donc, ils préfigurent, en fait, le sacrifice parfait. Ici, nous avons le Fils de Dieu qui volontairement, se donne pour son peuple. Il est prêt à laisser volontairement sa vie. Quelle perfection, quelle beauté. Hein. Et quel exemple aussi Jésus nous donne ici pour nous qui, souvent nos prières sont des balbutiements, on ne sait pas trop comment prier. C'est un exemple pour nos prières, de laisser donc de côté notre propre volonté, notre volonté propre. Cette volonté qui est tellement fixée sur nous-mêmes, sur nos avantages, sur notre confort. Et donc, quel exemple d'embrasser au contraire la volonté de Dieu pour nos vies. Et que ce soit donc un chemin facile que Dieu prévoit pour nous, plus facile que d'autres peut-être, que pour d'autres, ou un chemin plus difficile, un plus dur à marcher. J'aime appeler personnellement cette prière la prière dangereuse. Cette prière, Seigneur, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. C'est une prière dangereuse. Dans le sens que ça peut nous coûter nos rêves. Ça peut nous coûter les plans que nous étions fixés pour nos vies. Mais c'est suivre Christ que de prier cette prière, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Et nous sommes appelés à suivre Christ en tant que croyants. Et donc en suivant Christ, c'est toujours le meilleur chemin. Et c'est toujours la meilleure chose qui nous mène au meilleur endroit. Est-ce que, laissez-moi vous poser cette question, est-ce que vous priez cette prière? Est-ce que tu pries cette prière? Cette prière, elle fait partie du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et nous sommes appelés à prier cette prière. Alors je suis d'accord, on n'est pas appelé à prier forcément cette prière avec exactement les mêmes mots, mais il faut que le contenu, que nous nous l'approprions, et j'ai envie même de vous poser la question, est-ce que vous priez cette prière chaque jour? Parce que c'est un enseignement biblique que nous sommes appelés à prier cette prière chaque jour. Comment est-ce que je peux dire ça? Eh bien parce que dans cette prière que Jésus nous a enseignée, il est dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et donc si je veux avoir demain le pain de demain, il faut que je prie cette prière demain aussi. Si je veux suivre Christ et ce qu'il me dit sur la prière, si après demain je veux avoir mon pain, il faut que je prie aussi. Et donc c'est l'ensemble de cette prière, c'est pas juste cette partie qu'on est appelé à prier chaque jour par rapport au pain, mais aussi c'est l'ensemble et donc aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons ici la marque d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien va prier cette prière. Pourquoi? Parce que Dieu a brisé sa volonté. La volonté propre qui recherche toujours que notre propre avantage finalement. Notre confort personnel. Et donc prier cette prière, c'est se renier soi-même. C'est accepter que Christ est notre Dieu et réellement notre Seigneur qui doit diriger notre vie, qui a le droit de diriger notre vie. Et donc, prier ça, c'est suivre Christ. Et bien sûr, en tant que croyants, nous sommes appelés aussi à grandir à prier par rapport à cette prière. À la prier avec un cœur de plus en plus honnête et droit, de plus en plus vraiment en pensant ce que nous disons, que ta volonté soit faite. Et Dieu va nous montrer. Parfois, nous ne sommes pas au clair encore. Qu'est-ce que c'est exactement la volonté de Dieu dans cette situation spécifique? Et Dieu va nous montrer. Et petit à petit, nous grandissons lorsque nous prions cette prière et lorsque Dieu nous aide après à vivre selon sa volonté. Alors, et les disciples, pendant ce temps, pendant que Jésus est en train de prier cette prière si belle, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Eh bien, verset 37, nous lisons Jésus revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Ils dorment. Et après ça, il parle spécialement à Pierre. Et donc il le reprend hein, ici. Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller une heure. Alors, en d'autres mots, tu dis vouloir mourir pour moi, avec moi, mais tu n'arrives même pas à rester réveillé et à prier. Et donc au verset 38, cet impératif logique, veillez et priez. Veillez et priez. Et que c'est étonnant de voir cette phrase. On a Christ, il faut qu'on se rende compte. Qu'est-ce qui se passe ici? Christ qui souffre au plus profond de lui-même. Et qu'est-ce que Christ fait pendant qu'il souffre? Il ne pense pas à sa souffrance. Il pense au bien de ses amis. Il veut leur bien, alors qu'il souffre. Et en fait, on voit ici, ça nous fait penser à la croix, n'est-ce pas? Pendant que Jésus était sur cette croix, il n'a pas pensé à lui-même, il a pensé à son peuple, à nous. Il a pensé à notre bien. Quel amour! Et après, Jésus donc repart et il revient au verset 40. Et à nouveau, donc, ils sont à nouveau endormis. À nouveau en train de dormir. Alors pourquoi cet appel à veiller et prier? Pourquoi est-ce que Jésus nous appelle? Pourquoi est-ce qu'il appelle ses disciples à veiller et à prier? Eh bien, verset 38, nous avons la réponse. Veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Afin de ne pas entrer en tentation. Donc il y a le danger de chuter. Et gardons en tête ce contexte. Donc il y a le danger de renier Christ, il y a le danger de l'abandonner, de le laisser de côté. Et donc là, dans ce contexte, veiller et prier. Pourquoi est-ce qu'il faut veiller et prier? Donc Jésus même va plus loin, il nous explique pourquoi. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous connaissez ce proverbe un peu populaire qui dit « vouloir, c'est pouvoir ». Ici, Jésus nous dit le contraire. Vouloir, ce n'est pas pouvoir. L'esprit est bien disposé, c'est-à-dire vous avez la bonne volonté, mais la chair est faible, donc vous restez incliné au mal. Vous avez la bonne volonté, mais vous restez dans la chair, vous restez incliné au mal. Donc pour Jésus, vouloir, ce n'est pas pouvoir. En plus du vouloir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'aide du Dieu Tout-Puissant. Il faut l'aide de Dieu pour pouvoir, pour réussir, pour tenir bon dans la vie chrétienne, pour ne pas renier notre Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ les encourage encore et encore et encore à prier, à veiller et à prier. Alors dormir, se laisser aller, c'est lorsqu'on pense ce péché, c'est pour les autres. Moi, je suis du bon côté, je suis dans un port, si vous voulez. Il y a peut-être la tempête, mais mon port, là où je suis, mon bateau, il est bien protégé. Il n'y a aucun risque, donc je peux dormir. Moi, jamais. Et donc, ce n'est pas voir lorsqu'on dort, ne pas voir la nécessité de l'aide divine. Et ce n'est pas comprendre le besoin que nous avons de l'aide de Dieu, le besoin de venir vers lui, de crier à lui, de prier. Et donc, ce n'est pas comprendre que nous avons besoin de prier aussi. Cet élément de la prière du Notre Père ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et donc, veillez et priez. Et pensons un peu à ça. Si le Fils de Dieu, Dieu lui-même a besoin de prier, combien plus nous avons besoin de prier? Vous avez besoin de prier. Oui, nous n'avons pas à endurer la croix. Loué soit Dieu pour ça. Il a tout accompli, tout est fait. Mais nous avons encore notre chair, nous avons encore notre faiblesse. Nous sommes encore inclinés au péché, à cet égoïsme. Et ainsi, nous avons cette mission de prier, cette prière que Jésus nous a enseigné à prier. Non pas ma volonté, mais ta volonté, ô Dieu. Et ainsi, nous avons à prendre cette prière de Jésus et à en faire notre prière, à l'approprier dans nos vies, chaque jour. Et donc, chers amis, prions. Prions que Dieu nous aide à ne pas renier Christ, parce que nous sommes capables. Et même, j'ai envie de dire, nous sommes capables de n'importe quel péché. Pensez au péché le pire. Nous sommes capables. Si Dieu ne nous aide pas, si Dieu ne nous retient pas, et par l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui habite en nous. Nous sommes quelqu'un de nouveau et nous n'allons plus faire ce que nous faisions avant. Mais nous sommes capables de la pire des choses. Et donc, prions que Dieu nous aide, que nous ne taisions pas lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes dans la semaine, et que nous avons une possibilité justement de dire « Oui, moi je fais partie des disciples de Jésus, je suis un disciple, je suis un chrétien. » Prions que Dieu nous aide à ne pas renier son Fils en nous comportant comme le reste autour de nous, alors que nous savons que c'est quelque chose d'autre que Dieu attend de nous, que nous vivions de manière juste. Que Dieu nous aide dans notre voisinage à reconnaître que nous sommes disciples de Christ, même si à travers ça, nous risquons de ne plus être invités peut-être pour des fêtes d'anniversaire ou je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Et n'oublions pas que là où nous avons chuté, là où nous avons, et nous avons tous eu un moment, au minimum un moment, où nous n'avons pas, où nous ne sommes pas accrochés à Christ, où nous avons eu honte de lui, n'oublions pas que là où nous sommes tombés, ce verset, n'est-ce pas ? Je vous précède, je viens vers vous, je suis avec vous. Le verset 28. Et donc cette prière que Jésus répète, nous le lisons dans le texte, il la répète trois fois. Cette prière, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc cette prière, Dieu l'exauce. Et Dieu lui donne de la force pour surmonter ce qui vient. Et on voit ici déjà que Jésus est seul. Hein. Ses disciples dorment. Aucun de ses amis ne prie pour pouvoir justement être un bon ami dans les heures qui viennent. Donc il est seul. Et dans cette solitude, Dieu, nous le lisons dans un passage parallèle en Luc, Dieu lui envoie un ange qui le réconforte. Et Dieu fait la même chose lorsque nous prions et lorsque nous savons et nous voyons que c'est dur justement de prier cette prière, non pas ma volonté. Et c'est dur lorsque nous la prions avec un cœur droit et honnête. Eh bien, Dieu vient à notre secours comme il est venu au secours de son Fils. Et après donc, au verset 42, regardez ce courage de notre Sauveur. « Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Jésus n'est pas en train de se dire « Bon, je vais me cacher, je vais essayer de fuir la situation. » Non, il va vers Judas qui vient avec cette troupe. Et il y a un courage ici, et il y a une victoire ici. À travers la prière, nous voyons une victoire de Christ. Et la victoire de Gethsémané nous pointe vers la victoire de la croix. C'est ici déjà que se décide ce qui vient plus tard. Nous avons un sauveur victorieux. Et nous voyons que pour nous, la clé de la victoire aussi, pour vivre une vie à la gloire de notre Dieu, ça se décide dans la prière. Et donc Jésus n'a pas voulu se cacher. Il est allé vers ses ennemis. Il a affronté. Et nous voyons donc troisièmement que Jésus est arrêté. Judas, donc l'un des 12, avait conclu un marché, on le lit au verset 44. Donc il dit, celui qui le livrait leur avait donné un signal, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et amenez-le sous bonne garde. Judas le livre par un mensonge, hein, un baiser. C'est en fait le signe, un signe d'amour, un signe d'affection. C'est un mensonge ici. Judas l'embrasse. Mais en réalité, il y a de la haine. Et ici, nous voyons le vrai hypocrite. Ici, nous voyons que Judas a péché par complot. Pierre, par contre, a péché par surprise. C'est une des différences. C'est la différence. Et après, donc, dans les versets 48-49, nous voyons que cette troupe qui vient pour prendre Jésus, elle agit par peur de la foule. Ils auraient pu arrêter Jésus dans le temple. Mais là, en fait, ils viennent donc, ils avaient besoin de l'aide de Judas pour justement l'arrêter lorsque personne n'est autour. Et donc, il y a cette peur de la foule. Mais Jésus montre qu'il y a aussi une raison plus profonde pourquoi ils viennent à cette heure pour l'arrêter. Et il dit, c'est pour que les Écritures soit accompli. Et c'est pour que les Écritures soient accomplies spécifiquement par rapport à Judas. Le traître, c'était annoncé. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de traître. Si dans le temple, ils auraient pu l'arrêter, mais là, il y a besoin d'un traître. Donc, afin que les Écritures soient accomplies, quelle haute estime on voit encore ici Jésus a-t-il, même dans l'heure de sa souffrance. Alors, comme on l'a déjà vu, il aurait pu penser à lui-même et à sa souffrance. Il pense encore à la gloire de Dieu, que l'Écriture soit accomplie. Il est prêt donc à tout endurer pour que se réalise ce qui est écrit à son sujet. Quelle fidélité de Dieu le Fils. Et quel prix cette fidélité lui coûte-t-il? Et après, au verset 50, donc, nous avons ce verset, ces mots terribles, tous l'abandonnèrent. Et nous voyons ici que aucun des disciples, personne des 11, n'a rien contribué à son salut. Rien contribué à leur salut. Et donc ça nous montre aussi que nous-mêmes, nous ne contribuons rien, si nous sommes chrétiens, à notre salut. Dieu fait tout. Dieu sauve parfaitement. Et donc, ses disciples l'abandonnent, ils prennent la fuite. Et donc, c'est le début de ce que Jésus avait annoncé au verset 27. Ça se réalise déjà ici, ça commence. Et donc, nous voyons quand même deux essais, hein, deux essais de rester accroché à Jésus, deux essais qui s'accrochent juste à la volonté humaine. Et deux essais qui échouent lamentablement. Alors, nous voyons au verset 47, l'oreille coupée, hein, à un serviteur. Alors, nous savons que c'est Pierre qui a coupé cette oreille, parce que c'est Jean qui nous le dit dans le passage parallèle. Alors sûrement il voulait trancher la tête, mais il s'est raté. Et au verset 50, donc c'est le premier essai juste, volonté humaine. Vouloir, ce n'est pas pouvoir. Et deuxième essai, verset 51, deuxième personne qui essaye de s'accrocher juste par la volonté humaine à Jésus, ce jeune homme. Qui est prêt à tout perdre pour sauver sa peau, finalement. Et donc, nous voyons qu'il suit Jésus, donc il essaye de suivre cet attroupement de personnes qui sont en train de prendre Jésus avec eux pour donc l'amener pour qu'il soit finalement crucifié. Et donc, ce jeune homme essaye encore de suivre Jésus, mais ça ne marche pas. On essaie de le saisir, et donc on tient son drap, et c'est le drap de l'habit principal. Donc c'est le drap le plus cher, c'est l'habit le plus cher. Donc il est prêt à lâcher ça, ce jeune homme, plutôt que de suivre Jésus. Et donc il s'enfuit tout nu. Et il a plus donc honte de Jésus-Christ que de sa nudité. Deux essais humains qui montrent que vouloir, ce n'est pas pouvoir. Pour vouloir et réussir, il faut aussi prier. Nous avons ici l'exemple de l'échec sans la prière. Et donc, tous les disciples, lorsqu'ils réalisent que Jésus ne va pas mourir en se battant, mais qu'il allait donc être humilié, tous le lâchent, tous fuient. Et Jésus n'a maintenant personne pour le défendre de ses violences physiques. Jésus n'a personne pour témoigner en sa faveur. Lorsqu'il va être devant le Sanhédrin, devant le tribunal, il va être tout seul. Et on va donc l'accuser faussement. Et il se trouve seul. Nous avons ici la croix avant la croix, dans ce passage. Et comme nous l'avons vu, si Jésus a pu aller à la croix, c'est parce que c'est grâce à ce moment qu'il a passé dans le jardin de Gethsémané. Et c'est ici que tout s'est décidé, dans la prière. Et nous voyons que ici notre Sauveur a été fort, même dans ce moment le plus faible. Alors que les hommes ont dormi, les apôtres ont dormi, Jésus a été fort pour eux. Jésus est fort, nous sommes faibles. Et ça reste la réalité, la vérité. Et donc nous sommes appelés à suivre Christ en priant comme lui, en regardant à lui, parce que nous échouons encore et encore. Et lui, nous avons en lui notre Sauveur parfait, le Sauveur qui a réussi. Ce sauveur qui est mort pour être fier, des êtres endormis, des êtres qui ne font pas ce qu'ils demandent. Mais nous avons un sauveur qui est là pour nous, et qui reste là pour nous, et qui sera encore notre force demain. Amen.